On va commencer tout de suite avec GeoAccess et je vais donc demander à nos trois invités, Gilles, Julien et Christophe, trois hommes, on n'a pas de femmes sur ce plateau à part moi, profitez de moi. Je suis la caution féminine. Ça va que Maudit Pio n'est plus là, elle nous en aurait fait la remarque. Voilà. Donc, j'accueille tout de suite Christophe Jouffré, par ordre d'apparition. Christophe Jouffré, qui est chercheur à l'IRIT à Toulouse. Nous avons derrière Grégoire Denis, qui est responsable nouvelles technologies à l'Institut des jeunes aveugles de Toulouse. Et Julien Berthier, qui est professeur à l'Institut national des jeunes aveugles de Paris, cette fois. Et je vous en prie, prenez place et prenez un micro. Ils doivent normalement tous fonctionner, et sinon on rectifiera le cas échéant. Alors, on dira un mot de cette recherche qui a donc été menée en collaboration par l'Université de Toulouse, l'Institut des jeunes aveugles donc, de Toulouse et l'Institut national des jeunes aveugles de Paris. Le but était de montrer que de créer des supports interactifs et de concevoir des nouveaux dispositifs interactifs, eh bien, ça permet d'améliorer non seulement les conditions d'enseignement des professionnels, mais bien évidemment les conditions d'apprentissage des élèves. Et on va peut-être dire un mot tout de suite du labo de recherche Cherchons pour voir, qui est un petit peu aussi à l'origine de la recherche, même si ce labo se situe sur Toulouse et qu'on n'oublie pas Paris. Mais c'est un laboratoire de recherche unique en France, une collaboration entre l'Institut des jeunes aveugles et l'IRIT. Peut-être Grégoire ou Christophe, pour nous dire un mot de cette collaboration rapidement, mais parce que Cherchons pour le voir a impulsé, on va dire, cette collaboration qui a débouché sur un projet FIRA.
Oui, merci de nous recevoir. Donc effectivement, Cherchons pour voir, c'est un laboratoire de recherche qui a été créé en 2012. C'est comme disait Blandine, c'est une spécificité en France. C'est la collaboration de professionnels de la déficience visuelle avec des chercheurs. L'idée derrière, c'est de produire, de construire, de co-construire des nouvelles technologies d'assistance pour les déficients visuels. Et donc effectivement, de cette collaboration, il est né de nombreux projets, dont GeoAccess en fait partie. Donc Christophe est directeur de ce laboratoire, et la convention a été signée entre le directeur de l'IGA et l'IRIT.
Voilà, mais on n'oublie pas bien sûr l'Institut national des jeunes aveugles qui a lui initié aussi le projet de recherche avec la FIRA, mais bien sûr en collaboration avec ce laboratoire. Alors, à propos de laboratoire et technologie, justement, on va dire un mot aussi tout de suite pour préciser de quelles technologies, de quels outils on va parler ce soir, parce qu'on va parler dans un instant de capteurs, de sons, de découpe laser, d'imprimantes 3D, de choses qui ne sont pas forcément dans le quotidien de tout le monde ici. Et peut-être nous dire un mot de ces outils et de ces technologies.
Je continue. Donc effectivement, les outils pour fabriquer ces objets interactifs dont on va parler, c'est ce qui émane de ce que j'appelle la fabrication numérique. Enfin, c'est pas moi qui l'appelle, on appelle ça la fabrication numérique. La fabrication numérique, c'est l'idée d'utiliser des outils nouvelle génération, comme effectivement des imprimantes 3D, des découpeuses laser, des fraiseuses, tout cet outillage qu'on peut trouver notamment dans les Fab Labs et qui effectivement ont un peu révolutionné la production de prototypes rapides. Et l'idée, voilà, c'est d'utiliser ces outils pour faire des prototypes fonctionnels le plus rapidement possible et montrer des preuves de concept d'objets nouvelles, pensés par des enseignants ou par des professionnels de la déficience visuelle.
Alors, c'est pas pour vous laisser la parole, mais on va peut-être commencer du coup pour donner des exemples de ces outils et de ces technologies, justement à montrer des exemples qui ont été développés, entre autres, à Toulouse, et des supports pédagogiques donc qui vont prendre forme sous vos yeux. Grégoire, vous allez expliquer.
Je vais effectivement parler de quatre outils qui ont été créés à l'Institut des jeunes aveugles. J'ai choisi ces quatre projets. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont été construits par des professions différentes à l'Institut. Là, en l'occurrence, c'est un livre multisensoriel. Donc, depuis très longtemps, on fait des livres tactiles pour les déficients visuels. Là, l'idée, c'était de reprendre donc ce même concept, mais d'y ajouter des interactions sonores. C'est une psychomotricienne à l'Institut qui était intéressée par cet outil. Ça a été co-construit avec les transcripteurs. Donc, le métier de transcripteur, je ne sais pas si tout le monde est au fait, un transcripteur adaptateur de documents, c'est celui qui va adapter justement un document ou un objet pour le rendre accessible à des personnes déficientes visuelles. L'idée derrière l'objectif pédagogique pour la psychomotricienne, c'était principalement de pouvoir faire comprendre à un enfant la structuration d'un livre, la structure d'un livre, d'une page, d'un livre, et pouvoir effectivement utiliser l'audio pour pouvoir faire une exploration audio-tactile. Ce livre est utilisé pendant des séances individuelles avec des enfants relativement jeunes qui n'ont d'ailleurs pas forcément qu'une déficience visuelle. Ils ont souvent un handicap associé. Et l'intérêt pour la professionnelle, c'est vraiment par rapport à cet outil, c'est le retour de l'enfant est extrêmement positif. Il aime le fait de pouvoir effectivement être lui-même acteur de ce livre et interagir en appuyant concrètement sur des petits boutons qui vont lancer un son audio. J'en ai pas parlé effectivement dans la fabrication numérique, mais j'ai oublié des éléments essentiels. Il y a eu une démocratisation de petits composants électroniques, des petites cartes, voire des petits PC, qui font que la création d'objets intelligents s'est rendue extrêmement facilitée. Et donc, tous les projets dont je vais parler contiennent ce type de composants, de petits PC ou de petits composants électroniques. On peut passer au projet suivant.
Oui. Juste, si je peux intervenir, pour être plus précis, plus pragmatique, en fait, on voit sur ce livre un mini PC qui est cousu à l'intérieur du livre. C'est la petite carte ronde qui est à droite. On voit des éléments qui sont imprimés en 3D, donc avec les imprimantes 3D, c'est un petit tourniquet qui tourne sur lui-même. On voit des enfants qui sont scratchés, qui sont aussi imprimés en 3D. On peut prendre les enfants et les faire jouer sur le tourniquet. Ils peuvent être acteurs de l'histoire, c'est-à-dire que l'enfant déficient visuel qui lit le livre prend une figurine et puis va la mettre en situation dans le livre. Et en fait, tout ça, là, c'est vraiment réalisé par la transcriptrice en document. Donc elle a mis une image de la machine à coudre qu'elle utilise, des soudures qu'elle a réalisées, etc. Et l'objectif, c'est que ça ne doit pas représenter beaucoup d'argent. Une petite art comme ça, c'est quelques dizaines d'euros. Des figurines, c'est quelques euros une fois que c'est imprimé. Donc tout doit rester dans des coûts vraiment très bas.
Mais malgré les coûts très bas, et on y reviendra, on a une problématique derrière qui sera de décupler ces outils, parce que le coût est très bas, mais on n'en a qu'un seul pour l'instant. On va passer à un deuxième exemple, peut-être avec vous Grégoire.
Tout à fait, alors c'est un projet très original, c'est une reine d'Angleterre interactive. Donc l'idée derrière, c'est un enseignant spécialisé en professeur d'anglais. Il avait pour idée effectivement dans son programme scolaire de faire découvrir la culture anglaise. Et donc il a imaginé cet objet, donc la reine d'Angleterre à taille humaine, qui a été réalisée sont des bouts de bois découpés via une découpe laser. Il a habillé la reine et la reine, on peut s'approcher de la reine, elle va dicter des phrases de façon aléatoire qui parlent de la culture anglaise.
Elle détecte quand l'enfant s'approche.
Elle détecte, effectivement.
Elle
capte le fait qu'on s'approche d'elle et donc elle va déclencher certains sons. On peut aussi la toucher, on peut toucher ses bras, ses mains, etc. Et pour apprendre aussi tous les termes anglais, pour apprendre les parties du corps. Donc ça, c'est un outil qui est utilisé de façon hebdomadaire dans ce qu'on appelle un lieu ressource. En gros, c'est une équipe d'enseignants spécialisés de l'IGA qui sont dédiés à un lycée particulier parce que dans ce lycée-là, on a une dizaine d'enfants qui sont déficients visuels.
Donc on a une reine d'Angleterre qui est presque plus interactive que la vraie.
On peut dire ça.
Elle est extrêmement accueillante, elle est drôle. Celle-ci.
Mais j'en profite pour un mot, justement, vous parlez de cette collaboration. Quelle est la place du chercheur dans ce type de projet? Comment vous intervenez, justement?
Alors, ce n'est pas la place de l'un par rapport à l'autre. En fait, l'objectif, quand moi j'ai créé ce laboratoire, c'est d'arrêter de travailler chacun de son côté et de s'associer en réponse à un appel d'offres. Donc même si on profite des appels d'offres de la FIRA, ce qu'on veut faire, c'est vraiment travailler dans la durée ensemble et ne pas être dépendant de l'intervention des fondations ou des financeurs divers et variés. Donc l'objectif, c'est de travailler ensemble identifier les besoins des enseignants spécialisés, des professionnels de l'enseignement spécialisé. Donc, dans la durée, on a un comité de direction, on se voit, on identifie leurs besoins, on fait de la prospective, on prépare des projets avant que les appels d'offres arrivent. Donc, on est prêt, en général, à déposer des projets quand les appels d'offres sont là. Et on fait deux types de réponses. La première, c'est une recherche plutôt fondamentale. Alors, je montrerai un exemple juste à la fin. Et la seconde, c'est d'essayer de transférer certains objets de recherche vers les professionnels. Donc de mettre dans leurs mains des outils qu'ils vont pouvoir utiliser demain.
Et dès aujourd'hui d'ailleurs, en ce qui nous concerne. Ouais. Alors, un troisième exemple.
Je rajouterais juste quelque chose par rapport à la photo, parce qu'effectivement, on voit des étudiants à côté de l'arène. Effectivement, certains projets sont aussi co-réalisés avec des étudiants de l'Université Paul Sabatier ou autres qui aident les enseignants à concevoir les parties les plus techniques. Même si la finalité pour nous, c'est que les professionnels s'approprient ces technologies-là. Moi, je rêve demain à l'IGIA, effectivement, d'avoir dans 5 ans un petit Fab Lab avec une découpeuse laser, une imprimante 3D, parce que certains professionnels en raffolent et se mettent à ces technologies-là. Donc pour le troisième projet, alors c'est un Qies accessible. Je ne sais pas si vous connaissez tous le jeu de société du Qies. Je ne rappelle pas forcément les règles. Donc là, l'idée, c'est d'avoir un plateau où on peut jouer donc à l'un contre l'autre. Et les personnages du Qies ont été designés via justement à nouveau imprimante 3D, découpeuse laser. On a rajouté aussi des textures qui permettent de dessiner les personnages et de pouvoir les différencier. Et tout ça est piloté par un mini PC. Un mini PC donc qui permet de comptabiliser les éléments, qui permet de suivre et de suivre les règles du Qies.
Et puis on enchaîne directement.
Et le dernier projet, c'est un tableau tactile interactif. Donc c'est le tableau La Chasse de Giovanni Di Franco. C'est un projet qui était pensé par une professeure d'art plastique, par notre professeur d'art plastique, et puis une enseignante spécialisée. L'idée, c'était de rendre interactif un tableau en y plaçant des capteurs. Donc, c'est un tableau particulier, il fait 2,36 m de large sur 27 cm de haut. Et donc, l'idée, c'était de pouvoir rajouter dans cette scène des boutons de l'interaction pour pouvoir comprendre et restituer l'image de cette scène. Et il y a aussi autre chose, c'est qu'effectivement, certains éléments, pour pouvoir se rendre compte de leur forme, on les a imprimés en 3D, on va dire en 2D et demi, pour avoir une idée de la forme de l'objet dessiné dans le tableau.
C'est-à-dire on peut enlever la forme du tableau, la manipuler, et la replacer.
Et c'était une idée qui a été retenue par le musée des Augustins à Toulouse. Alors le projet, c'est vraiment un prototype. Là, il est loin d'être utilisable en musée, mais ça pourrait effectivement être une idée qui sera reprise par le musée des Augustins ou d'autres.
Alors tous ces projets, ils ont l'air intéressants, mais ils le sont aussi concrètement et réellement. Ils ont été à chaque fois pensés avec des professionnels pour des besoins spécifiques et des besoins spécifiques pour des types de métiers spécifiques. Et peut-être qu'on va passer la parole à Julien, à Christophe aussi.
Non, c'est bien Julien qui répond, mais ils n'ont pas été pensés avec des professionnels. Ils ont été pensés par des professionnels.
Ouais.
On répond simplement à leurs besoins. C'est eux qui viennent avec une idée et en fait, on les accompagne un petit peu, le moins possible, pour qu'ils réalisent.
Et alors justement, Julien, vous êtes un professionnel, un enseignant en histoire-géographie à l'Institut national des jeunes aveugles de Toulouse, donc, et de Paris, oui. Paris, Toulouse, de France. Et vous allez nous présenter un projet, là aussi très spécifique, un projet qui est un plan interactif de Paris. Et on va, avec vous, vraiment rentrer dans les détails, expliquer quels ont été les objectifs pédagogique de ces réalisations, pourquoi ces réalisations, finalement, elles ont du sens, elles ont un intérêt spécifique dans le cadre de la pédagogie et des apprentissages.
Oui, tout à fait. En fait, ça, c'est parti... Pardon ?
Non, je vais vérifier. Vous entendez bien le micro marche ?
Oui.
D'accord.
Alors... Donc c'est parti d'un projet que je menais avec une classe qui était une classe avec un dispositif pédagogique aménagé sur 2 ans, une seconde, voilà. Et l'idée c'était un groupe classe qui avait des difficultés scolaires et c'était de mener sur une année un projet d'histoire, on va dire, qui permettrait de rentrer un petit peu plus dans l'histoire de la ville de Paris, parce qu'à travers les âges. Et donc l'idée, c'était à travers ce support de le rendre accessible, ce que ordinairement on fait à travers plusieurs cartes, puisque pour la déficience visuelle et pour spatialiser une information, extraire une information, se déplacer, situer un élément par rapport à l'autre, généralement on décompose les cartes par feuilles, on va dire en relief, ce qu'on appelle DER, en dessin en relief, et c'est à l'élève, avec de l'accompagnement certes, mais avec beaucoup aussi de prérequis en termes de représentation spatiale ou mentale, de reconstituer l'ensemble des informations. Donc là, l'idée en couplant deux technologies nouvelles, du prototypage rapide, de la fabrication numérique, c'est la découpeuse laser et l'impression 3D, les technologies de l'informatique embarquée type Arduino, touchboard, etc. On a pu avoir une information tactile, donc par la manipulation 3D, une information à plat avec la découpeuse laser et une interaction sonore avec en isolant des points d'intérêt qui étaient les monuments de Paris. Donc ça, c'était le dispositif comme il était pensé, je dirais, au niveau production, technologie, au niveau pédagogique. C'était l'objectif, c'était que l'élève puisse rendre compte de l'extension urbaine de la ville à travers les âges, par les enceintes de la ville, parce que Paris a été fortement marqué dans son urbanisme, jusqu'à aujourd'hui encore, par ces différentes enceintes. Il n'y en a pas eu beaucoup, hein, mais bon, celles dont on... Et en plus, qui ont quasiment toutes disparu. Donc voilà. Et donc, l'élève, on s'est rendu compte, déficient visuel, avait beaucoup de mal à se rendre compte d'effet d'échelle, de ce que pouvait représenter un Paris de l'Antiquité, de ce que pouvait se représenter le Paris du Moyen-Âge. Donc l'idée, c'était qu'il puisse se rendre compte, en fabriquant lui-même et en manipulant les différentes enceintes et donc les différentes extensions urbaines de la ville, dans le semi-urbain d'aujourd'hui, d'accord, de spatialiser une information, je dirais, donc une information historique, et de la spatialiser, d'accord, dans un ensemble qui est aujourd'hui l'ensemble vécu et par lui-même, et l'expérience qu'il a de la ville. Voilà, donc ça a été le projet. Et donc, il manipule, encore une fois, les enceintes en 3D. L'avantage du 3D, là, c'est qu'on a permis d'avoir des informations tactiles que habituellement sur une information, je dirais, d'un DER à plat, on n'a pas, ou simplement par une texture. Donc, sur du 3D, on peut mettre du renforcement de couleurs, de textures. On peut mettre un renforcement aussi d'architecture. C'est-à-dire, il y a des éléments de l'enceinte médiévale qui n'est pas exactement celle de l'enceinte des fermiers généraux ou de celle de Thiers du 19e plus tard. Donc, on rajoute des informations qu'on n'a pas ordinairement par simplement un dessin en relief. Donc, ça, c'était hyper intéressant. Et on s'est aperçu au total, finalement, que le dispositif, lorsqu'il pense par la texture, par le relief, par le son, par le 2D et par le 3D, ça incluait tout ça, ben finalement, ça devient un dispositif, utilisable et performant pour tout le monde, je dirais. Pas simplement pour un élève en situation de handicap visuel, mais au total, un dispositif pour lequel il y a un renforcement pédagogique, de connaissances, de compétences complets, qui peut aussi bien aller à des voyants, qui est en plus interactif entre voyants, non-voyants ou malvoyants, et puis d'autres types de handicaps, pourquoi pas. Donc voilà, là-dessus, ça a été hyper, hyper intéressant.
C'est-à-dire par rapport à des outils classiques, les outils interactifs n'ont pas seulement permis finalement des meilleurs apprentissages de ce que vous étiez déjà en train de leur apprendre, mais en plus d'aller au-delà, d'apprendre des nouvelles choses finalement qui n'était pas possible avec les outils classiques.
Voilà, d'une certaine façon. Alors, en tous les cas, c'est certain que l'avantage de ce prototypage rapide et de la numérisation de toute la fabrication, c'est qu'on peut le faire évoluer et puis on peut penser en amont l'ensemble d'un dispositif pédagogique qu'aujourd'hui l'offre commerciale n'existe pas, enfin ne propose pas. Donc on peut vraiment cibler sur un besoin particulier, sur une procédure pédagogique, une situation d'apprentissage, et on peut du coup viser des connaissances mais aussi des compétences. C'est-à-dire que là justement, ce qu'on travaillait bien sûr, c'est toutes les connaissances historiques liées aux monuments, liées aux enceintes, liées à l'architecture, au patrimoine urbain de Paris, mais c'était aussi mettre en jeu des compétences cognitives, d'accord, pour l'élève, pour se rendre compte, pour manipuler d'un point de vue de la représentation spatiale, mentale, nous, et du coup ça permet aussi aux professeurs qui pensent le dispositif de vérifier comment comment l'individu s'approprie la connaissance, la construit, la restitue. Donc ça, effectivement, ce sont des renforcements qu'on n'a pas ordinairement et qu'on ne peut pas mettre en place véritablement.
Et alors vous l'avez noté en tant que professeur qu'il y a effectivement ces acquis, mais et Christophe va nous en parler, il y a un travail de recherche qui a été effectué, vous avez publié d'ailleurs un article scientifique avec Stéphanie Giraud, et cette étude que vous avez menée, elle a permis de valider des résultats que le professeur que vous êtes avait perçu évidemment, que les élèves avaient noté aussi, mais on l'a démontré scientifiquement, on va dire, on peut dire aujourd'hui du coup c'est prouvé entre guillemets. Ces nouveaux outils améliorent les apprentissages.
Ouais, complètement. En fait, juste avant de passer à l'amélioration des apprentissages, je voulais préciser le point de Julien, parce qu'il y a effectivement le facteur de l'adaptabilité extrême de ces objets, c'est-à-dire que chaque professionnel peut, grâce à ces technos qui ne sont pas coûteuses, réaliser l'objet dont il a besoin. Et cet objet, non seulement il est tangible, c'est-à-dire que l'enfant non-voyant peut le manipuler, donc il peut avoir accès à une information structurée, voilà, sous forme d'objet, mais en plus on peut rajouter de l'information dedans. L'objet devient interactif très facilement, c'est-à-dire que les sommets d'un triangle peuvent parler. La tour Eiffel peut se décrire, elle peut donner sa taille, elle peut expliquer ses différents étages, etc. Donc tout est adaptable à l'extrême. Et il y a encore une énorme qualité à ces objets, ce sur quoi on travaille aujourd'hui, on va en parler un petit peu à la fin, c'est la réplicabilité. C'est qu'aujourd'hui, en fait, tout ça, c'est un fichier numérique. Ce qui est imprimé, c'est un fichier numérique que je peux envoyer à l'autre bout de la France et qui peut être imprimé par un autre professeur que Julien, qui va réaliser un projet.
La mutualisation complètement, ouais. C'est ça qui est hyper important.
Et ça révolutionne un petit peu le milieu. C'est-à-dire que chaque institut travaillait aujourd'hui dans son coin, entre guillemets, ils ont toujours fait de la fabrication, hein. Alors pas numérique, mais de la fabrication, découper des trucs, les souder, etc. Mais chaque institut avait ses objets, et puis chaque réalisation était gardée dans un coin, quoi.
Et puisqu'on approche justement ce sujet-là, mais allons-y quand même carrément, effectivement, les résultats de la recherche et ici les documents numériques donc, que vous avez créés, qui sont utilisables par d'autres, ils ne sont pas encore pleinement parce que justement, ça a beau être pas cher, il n'y a pas qu'une question de prix, il y a une question de s'approprier ces technologies, d'avoir envie. Qu'est-ce qui manque le plus, qu'est-ce qui fait défaut finalement aujourd'hui par rapport à ce que vous avez, vous, expérimenté? Pourquoi c'est pas déjà très largement partagé? Un mot avec Julien, peut-être.
Moi, ce que je remarque, mais
bon prévu.
On peut se compléter. On peut se compléter là-dessus.
Alors, moi, ce que je remarque, c'est vrai que c'est tout ça hyper intéressant, performant. C'est-à-dire que c'est pas juste pour s'amuser et que voilà, bon, c'est pas juste un passe-temps. C'est clair que d'un point de vue pédagogique, il y a un vrai renforcement et pour l'élève, d'un point de vue des connaissances, des compétences, on voit un gain et une plus-value véritable. Après, c'est vrai, on remarque que la répétition et en tous les cas, le fait d'avoir nous à Ninja ce prototype-là, enfin, c'est resté un prototype, on en a qu'un. On pourrait en faire d'autres, c'est vrai, les fichiers existent, c'est numérique, c'est pas extrêmement cher, mais ce qu'on voit, c'est qu'on n'est pas arrivé encore à mettre en place une économie et un mode de production qui permet de systématiser l'utilisation. Comme le DER qui reste encore, enfin, donc le dessin en relief, là, c'est ce que vous avez, les cartes à droite, qui reste plus facile, à mettre en fichier plus facile par le producteur, quoi, je dirais, donc le professeur. Et ça, c'est vrai que ça pose une question, c'est-à-dire qu'on avance sur des processus, sur des méthodes, etc. Et aujourd'hui, il y a des freins, hein, d'abord parce que c'est chronophage, c'est peut-être à questionner dans les instituts et dans les...
On va essayer de trouver des solutions, parce que juste après, on va parler du concours T'as qu'à voir et des outils qu'on va essayer de mutualiser. Mais oui, il y a un problème de formation qui n'est pas ingérable. Hein.
Non.
Même Julien avait commencé à travailler sans aucune aide et réalisait déjà des choses seul. Donc la formation n'est pas ingérable. Après, c'est peut-être une impulsion au niveau des entités elles-mêmes. C'est-à-dire une prise de conscience des directions, du corps enseignant, du corps professionnel, de la valeur ajoutée de ces outils. Et puis un accompagnement, probablement. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a un métier qui est l'adaptateur en documents. C'est quelqu'un qui fait ça depuis très longtemps, de transformer des documents visuels en documents tactiles. Il a toujours bricolé, ce personnel-là. Il a toujours utilisé du bois, de la feutrine. C'est quelque chose qu'il fait chaque jour. Donc, c'est juste une mini-formation supplémentaire. faire reculer les appréhensions aussi. Ces petits objets numériques, ça fait un peu peur, quoi. On manipule des petits ordinateurs, ça fait un peu peur, et pourtant, il n'y a rien de magique, quoi.
Grégoire a ajouté un mot.
Christophe a dit à peu près ce que je voulais dire. C'est que ce que je constate, moi, à l'IGA, effectivement, je pense qu'il y a, il y a déjà une histoire d'investissement personnel, ça c'est sûr, et d'envie de toucher ces nouvelles technologies. Après, je pense qu'effectivement, il faut que ce soit un choix qui soit validé par la direction, parce que ça nécessite quand même du temps de préparation, qu'il faut du coup faire valoir comme temps de travail, parce qu'effectivement, ça me permet de faire des outils pédagogiques qui vont me servir dans mon quotidien. Et c'est plus ça le combat qui sera à mener dans les instituts, à mon avis, comme les nôtres, c'est faire valoir le fait que je ne le fais pas ça juste pour mon plaisir. Je crée des objets qui vont avoir une utilité dans ma démarche pédagogique. Et donc, effectivement, il va falloir que je sois formé, etc. etc.
Ouais, des choses qui ont du sens, me disait Julien quand on préparait cette table
ronde. On leur représentera les résultats de l'étude pour les convaincre, puisque je les ai
pas présentés. Exactement, mais justement, Eva, on y revient. C'était pas une fausse annonce. On va vraiment vous en parler, j'ai plus de voix de toute façon, donc c'est à Christophe de nous présenter ses résultats.
Donc, si vous voulez bien reculer d'une diapo, c'était juste pour repartir sur le dispositif de Julien. En fait, on a utilisé ce qu'on a créé avec Julien, enfin, sous ses directives. En fait, on a comparé des apprentissages géographiques et historiques basés sur deux groupes d'élèves, en fait, qui vont avoir accès aux mêmes contenus, exactement les mêmes contenus. Un groupe va travailler avec les documents en relief que Julien a présentés. Donc, ce sont des cartes qui sont imprimées sur un papier spécial qui gonfle. Tout ce qui est noir sur ce papier va gonfler. Donc, quand on l'explore avec les doigts, en fait, on sent les reliefs, etc. Et on compare les apprentissages qui vont être réalisés sur cette carte en relief avec les apprentissages, enfin les performances qui sont obtenues sur le dispositif interactif. Donc ils ont la même tâche à réaliser, ils ont les mêmes contenus, tout est équivalent, tout est contrebalancé.
Et je te coupe juste une seconde pour ceux qui voient les images. Paris est à l'envers là.
C'est exprès, non,
ouais. Voilà, mais il faut le dire parce qu'il se pose peut-être la question. Voilà, c'est parce qu'on a pris le dispositif de Paris, mais pour en faire une autre histoire, pour pas que ceux qui testent entre ceux qui connaissaient bien Paris ou pas, c'est un royaume imaginaire. Voilà, donc pas d'inquiétude. Le professeur Géo sait bien que la Seine est au sud. voilà.
C'est volontaire. Donc voilà, c'est l'histoire d'un royaume imaginaire qui grandit sur, plusieurs siècles. Il y a plein de familles qui vont apparaître, disparaître, des guerres, etc. Donc c'est assez long, hein. Ils ont travaillé, c'est une demi-heure au moins d'exploration, documents, peut-être même plus.
Ah ouais, 45 minutes, voilà. Ouais, complètement.
Donc parcours de différents documents historiques, sans consigne particulière, si ce n'est de bien comprendre et de mémoriser l'histoire. Et en fait, si on passe à la diapositive suivante, donc on voit les résultats en fait du groupe qui a travaillé avec la carte en relief et du groupe qui a travaillé avec le modèle interactif. Et on voit que toutes les différences sont significatives. Donc, ils retiennent mieux les éléments historiques de l'histoire. Ils retiennent mieux la géographie de ce royaume, la façon dont il a évolué dans le temps et tout ça. Et ça, c'est hautement significatif. Et en termes de... Alors, le dernier index que vous voyez, c'est le SUS, c'est le Satisfaction Usability. Je ne sais plus ce que c'est le dernier S. C'est un index qui juste mesure est-ce que le dispositif qu'on a réalisé est utilisable. Donc, il y a une échelle un petit peu normée. Et on peut voir qu'en fait, les deux dispositifs sont à plus de 80%. Ça veut dire que les cartes en relief qui sont utilisées depuis,
depuis le début de leur scolarité, en tous les cas.
C'est très utilisable, évidemment. Ça fait ses preuves. Et le dispositif est tout aussi utilisable. Donc, en fait, on a validé l'intérêt en termes d'apprentissage chez les élèves du dispositif.
Alors, moi, j'en doutais pas. Mais maintenant, tout le monde est convaincu. On aborde la fin de cette table ronde. Ça passe toujours un peu vite. J'aimerais qu'on revienne du coup sur qu'est-ce qu'on fait après pour diffuser et favoriser les échanges autour de ces supports. On l'a évoqué brièvement tout à l'heure, mais jamais que chacun d'entre vous peut-être me dise un petit mot pour conclure là-dessus, mais peut-être d'abord avec vous, Christophe, sur un peu la suite de l'aventure, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, et notamment sur le concours TAC à voir. On a une slide qui parle de ça, oui d'ailleurs, oui.
Voilà. Bon, l'idée qu'on a mis en place là, du coup, qui était vraiment intégrée au sein de la proposition qu'on avait faite à la FIRA, c'est de vraiment travailler sur ce qu'en anglais on appelle l'empowerment. Je ne sais pas comment on dit en français, rendre
capacité d'agir. Voilà.
Donc l'idée, c'est d'associer vraiment les enseignants dans cette dynamique-là, de les rendre acteurs. Et on organise chaque année un concours, un espèce de petit challenge où les enseignants viennent avec leur idée. C'est eux qui apportent le projet. Et on va les mettre en relation avec une équipe de... Alors ça, aujourd'hui, il y a des jeunes élèves en informatique de l'Université de Toulouse, des élèves de l'IUT de mesure physique de Toulouse. On a eu un peu d'IUT de génie mécanique, une école d'ingénieurs, je ne sais pas, non, toujours personne de l'école d'ingénieurs. Voilà, bon, bref, il y a des petites équipes qui se constituent. Ils partent avec le projet et puis on se rejoint en fait en fin d'année, en juin, et ils viennent présenter leur réalisation. Et du coup, on a mis des règles en place, c'est-à-dire qu'on est obligé de mutualiser. Voilà. Il faut qu'ils déposent sur le site web qu'on a créé à l'occasion du concours des fichiers numériques. Il faut qu'ils déposent des méthodes pour réaliser certaines choses. Ils sont obligés de faire deux articles sur leur réalisation et de poster les fichiers numériques. Et donc l'idée, voilà, c'est que ça se propage un peu et que ce site soit repéré et que les enseignants, après, comme Julien ou les professionnels, puissent venir se servir ici et poser des commentaires et poser des questions et qu'il y ait une communauté, en fait, puisque c'est un peu ça le mouvement qui est derrière tout ça, hein, c'est la communauté des makers. C'est une communauté qui se crée autour de la déficience visuelle et de ces outils-là, quoi.
Et est-ce qu'on avait une dernière slide, je crois, avec vous, ou c'était la dernière ? Est-ce qu'on
avait une... je ferai juste une remarque par rapport au site. Non, bon. Actuellement, il y a un site qui existait, qu'on va migrer sur ce nouveau site. Donc pour l'instant, il n'y a qu'un seul article, mais n'hésitez pas à y aller régulièrement. On va mettre à jour, effectivement, on va migrer déjà l'ancien site vers ce nouveau site, et on va essayer effectivement de le faire vivre beaucoup plus que ce qu'on l'a fait jusqu'à maintenant. N'hésitez pas à faire des retours aussi sur l'accessibilité du site, et on espère effectivement qu'on va pouvoir réussir à partager un maximum d'expériences à travers cet outil collaboratif.
Donc on a survolé assez rapidement tout ce qui est résultat de ces recherches, adaptateur de documents, toutes ces choses-là, beaucoup d'outils qui sont en open source, en tout cas qui sont là pour être partagés et utilisés. On n'a peut-être pas le temps de s'étendre complètement. Il y a beaucoup de choses en ligne, donc vous l'avez dit, et sur le site de la FIRA. Un dernier message peut-être pour conclure, Julien, vous, de votre point de vue, de votre position, qu'est-ce qu'on peut encore faire pour aller plus loin, partager encore plus, diffuser encore plus auprès des élèves, des enseignants d'abord, du corps professionnel, oui.
Non, moi je crois que c'est vrai que ce qui est aujourd'hui un frein un petit peu au fait de la diffusion des méthodes et que dans les applications pédagogiques ce soit un peu plus systématisé, c'est la question de la mutualisation. Ça, c'est clair que dans le champ du handicap et en tous les cas visuels, il y a une forêt d'associations et autres où chacun propose sa plateforme, ses outils, son etc. Interactive. Enfin, et il faut arriver à faire une grande plateforme, pourquoi pas nationale, de mutualisation. Il y a partout dans les centres de déficients visuels qui accueillent des déficients visuels en France des services de transcription. Chacun fait ne serait-ce que des documents. C'est absolument pas mutualisé. Pas du tout, du tout. Donc ça, je pense qu'effectivement, ce qui permettrait, je pense, clairement de passer cette étape pour systématiser les procédures qu'on met en place comme ça, un peu expérimentales, c'est la mutualisation des fichiers, clairement. Oui. Ça, c'est sûr.
Et en tout cas, vous y avez participé à cette élan là, on va dire, parce qu'il y a quand même les guides aussi, des guides qui sont créés et qui vont aider, on l'espère, à développer ces technologies un peu partout. Merci beaucoup, désolé. Hein,
merci à vous.
Il y a un timing.
Merci.
Mais vous serez contents qu'on le respecte hein, quand ce sera d'autres qui parleront. Donc. Non, merci beaucoup à tous les trois
pour
ce beau projet.